Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du mercredi 4 janvier 2023, la Chambre américaine des représentants a clos sa rentrée mardi sans parvenir à élire son nouveau président, une première en 100 ans.
Fondamentalement, c'est un président affaibli. Et beaucoup de ses amis au Congrès estiment qu'il est temps qu'il prenne le tablier.
Vous entendrez dans un instant l'analyse de l'historien Mohamed Mbosh sur ce flop de la rentrée parlementaire américaine. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé hier la levée de l'interdiction des meetings qui frappaient l'opposition depuis 2016. Le procès du médecin rwandais Sosten Muniemana, accusé de crimes contre l'humanité, se tiendra du 13 novembre au 22 décembre 2023 devant la cour d'assises de Paris. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, le gouvernement centrafricain annonce une hausse du prix des carburants. Et le sport avec le compte-rendu des obsèques de Pelé, roi du ballon rond. Bonjour, bienvenue. On commence par le journal. Les élus de la Chambre américaine des représentants ont clos mardi leur séance sans être capables d'élire un président. De fortes tensions dans les rangs républicains plongeant le Congrès dans l'incertitude. Cela n'était pas arrivé en 100 ans. Les détails avec Nani Talani.
Grand favori pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi, le républicain Kevin McCarthy n'était pas parvenu, après 3 votes successifs, à calmer la fronde émanant d'un groupe de trumpistes jugeant l'élu trop modéré. Les élus se sont accordés pour suspendre leur vote jusqu'à mercredi matin, le temps de négocier en coulisses. Les républicains, qui se sont emparés de la majorité à la Chambre basse aux élections de novembre, avaient promis d'user de leur nouveau contre-pouvoir en ouvrant une série d'enquêtes sur le président américain Joe Biden. Mais le lancement de telles hostilités est paralysé par ces querelles internes. Les élus de la Chambre des représentants ne peuvent pas officiellement prêter serment et donc ouvrir une quelconque investigation tant qu'un président n'est pas désigné. L'élection du Speaker, le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Un seuil que Kevin McCarthy n'est pas parvenu à atteindre, une vingtaine d'élus trumpistes ayant décidé de jouer les troubles faits.
Paralysé donc au cœur du pouvoir législatif américain, jamais en un siècle la Chambre n'avait échoué à élire son speaker dès le premier vote. Pour expliquer ce qui s'est passé à la Chambre basse des États-Unis, j'ai joint à New York l'historien et analyste politique Mohamed Mbosh.
McCarthy a présidé à une défaite électorale imprévisible. En fait, tout le monde s'attendait à une vague rouge qui ne s'est pas produite. Fondamentalement, c'est un président affaibli et beaucoup de ses amis au Congrès estiment qu'il est temps qu'il prenne le tablier. Ensuite, il s'est montré très obséquieux vis-à-vis de Trump et certains de ses collègues n'aiment pas du tout cette façon assez servile de suivre Trump à certains moments. Et troisièmement, il apparaît comme quelqu'un qui n'est pas décisif et qui donc n'a pas la poigne pour faire marcher les troupes.
Alors, en dehors de Kevin McCarthy dans le Parti républicain pour présider à la Chambre des représentants, est-ce qu'il y a une alternative en ce moment?
Je ne pense pas. Jim Jordan, qui a été présenté malgré lui comme une alternative, son adjoint n'en veut pas. Et de toute façon, il est plus à droite que McCarthy. Et donc, je pense qu'un candidat qui serait à la droite de McCarthy va acquérir moins de voix que McCarthy. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une alternative. C'est une tentative de négocier, de lui forcer la main pour qu'il accepte une dizaine de réformes. Je crois qu'il en a accepté 5 ou 6 par la frange droitière de son parti. Mais il a décidé de ne plus reculer. Et je pense qu'il paie le prix un tout petit peu de cette résistance des dernières minutes.
Alors, à ce stade des événements, est-ce que le chaos profite aux démocrates?
Tout à fait. Il montre au public américain que le Parti républicain n'est pas un parti de gouvernement. S'il n'arrive même pas à s'entendre sur le choix d'un leader à la Chambre, alors que la tradition, depuis plus de 100 ans, voulait que McCarthy soit élu sans anicroche. Et avec cette faible majorité, beaucoup se doutent d'une capacité de légiférer en toute sérénité et au bénéfice de tout le peuple américain.
Voilà, c'était Mohamed Nbosh, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Pour refermer cette page consacrée à la rentrée parlementaire américaine, sachez que le président Joe Biden s'est gardé de commenter les dissensions républicaines, sa porte-parole Karine Jean-Pierre, assurant que le dirigeant démocrate ne se mêlerait pas de ce processus. Le président américain va recevoir le premier ministre japonais Fumio Kishida vendredi 13 janvier. Ici à Washington, a annoncé mardi la Maison-Blanche, les deux dirigeants doivent échanger sur une série de sujets diplomatiques brûlants, Corée du Nord, Ukraine, économie, changement climatique et développer davantage les liens entre nos gouvernements, nos économies et nos peuples, a précisé la porte-parole de l'exécutif américain dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour constitutionnelle de Centrafrique a confirmé mardi la nomination d'un nouveau président à sa tête par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Jean-Pierre Wabwe remplace donc définitivement l'ancienne titulaire du poste, Daniel Darlan, que le président Touadéra avait congédié après des décisions invalidant plusieurs de ses décrets et projets de loi. L'opposition centrafricaine et une partie de la société civile soupçonnent M. Touadéra de vouloir modifier l'actuelle constitution qui lui interdit plus de deux mandats afin de se maintenir au pouvoir à la prochaine présidentielle en 2025. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a annoncé hier la levée de l'interdiction des meetings qui frappaient l'opposition depuis 2016 dans un nouveau signal d'ouverture salué par les formations politiques et les organisations de défense des droits humains. Michel Joseph.
La présidente Samia Suluhu Hassan a fait cette annonce lors d'une réunion avec les dirigeants des partis politiques, leur annonçant que l'interdiction des rassemblements politiques est désormais levée. « Vous êtes tous libres de critiquer le gouvernement », a assuré la première femme à diriger la Tanzanie après le décès de John Magufuli en mars 2021. En juin 2016, 8 mois après son élection, Magufuli avait interdit les rassemblements publics des partis politiques, mais surtout ceux de l'opposition. Le principal opposant, Freeman Mbowe, du parti Chadema, a accueilli positivement cette annonce, tout en confiant sa grande prudence. Pour Zitto Kabwe, de l'Alliance pour le changement et la transparence, ce droit a été retiré par un décret présidentiel illégal et la présidente a remis les choses dans l'ordre. L'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu Hassan a marqué une rupture avec l'ère Magufuli, dont elle était la vice-présidente. Elle a tendu la main à l'opposition et autorisé la réouverture de médias interdits.
Le procès du médecin rwandais Sosten Mounyimana, installé en France depuis septembre 1994 et poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, se tiendra du 13 novembre au 22 décembre 2023 devant la cour d'assises de Paris. Le point avec Mohamed Oumfa.
Sosten Mounyimana, ancien médecin à Butare dans le sud du Rwanda, a été mis en examen en 2011 pour sa participation présumée au génocide. Au terme des investigations en 2018, un juge d'instruction avait ordonné un procès aux assises, une décision confirmée en appel en 2021. Il sera jugé entre autres pour génocide et crimes contre l'humanité. Arrivé en France après le génocide, le docteur Mounyimana s'était vu refuser en 2008 sa demande d'asile en raison des soupçons pesant sur lui. La demande d'extradition formulée par Kigali à son encontre a été rejetée en 2010. Marié et père de 3 enfants, cet ancien gynécologue a commencé à exercer au début des années 2000 comme médecin urgentiste dans un hôpital de Villeneuve-sur-Lot dans le sud-ouest de la France. À ce jour, 4 dossiers liés au génocide au Rwanda ont donné lieu à des procès en France, dont 2 sont définitivement jugés. L'ancien gendarme rwandais Philippe Ategekimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, doit comparaître devant les assises de Paris du 10 mai au 30 juin.
Le gouvernement gambien a inculpé mardi 2 civils et 1 policier en relation avec une tentative de coup d'État en décembre, a annoncé un porte-parole dans un communiqué. Au moins 7 militaires ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Une commission d'enquête qui doit rendre son rapport à la fin du mois a été créée pour faire la lumière sur cette tentative de putsch présumée. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé mardi avoir reçu une lettre provenant des autorités du Burkina Faso sans en préciser la teneur, alors que Ouagadougou avait demandé à changer d'interlocuteur interlocuteur à l'ambassade de France. Le Burkina Faso avait déjà ordonné fin décembre à la coordinatrice résidente des Nations Unies de quitter immédiatement le pays sans fournir d'explication. Cette demande ferait suite à une lettre de l'ambassadeur Luc Allade envoyée en décembre aux ressortissants français résidant à Kourougou pour leur demander de se relocaliser. Et puis, deux pompiers et trois civils ont été tués lundi soir lors de l'attaque d'un poste de secours à Markagungo, dans le sud-est du Mali, a annoncé mardi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les autorités ont identifié les deux secouristes tués comme le sergent-chef sapeur-pompier Idrissa Dambélé et le sapeur-pompier Thieba Koulibaly. Des cérémonies militaires et les funérailles des deux hommes sont prévues ce mercredi. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
D'après l'agence Ecofin, avec l'arrivée d'Orange Côte d'Ivoire en bourse régionale, la valorisation des entreprises filiales du groupe français représentait au 30 décembre 2022 40,4% de la valeur du marché financier de l'UMOA. La valeur en bourse d'Orange Côte d'Ivoire vient s'ajouter à celle de la Sonatel, filiale d'Orange basée au Sénégal. Pour ces deux filiales, cela fait une valorisation de plus de 3 000 milliards de francs CFA contre une valeur totale du marché des actions qui, à la fin de l'année 2022, était de plus de 7 560 milliards de francs CFA. Le gouvernement de Centrafrique annonce des augmentations des prix des carburants dans ce pays enclavé qui connaît souvent des problèmes d'approvisionnement. L'essence passe de 865 francs CFA à 1300 francs CFA le litre, soit une augmentation de plus de 50%. Le gazole augmente de près de 70% et passe de 855 francs CFA à 1450 francs CFA le litre. Le monde est loin d'atteindre son objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale qui dit que selon ses dernières estimations, 685 millions de personnes se trouvent en situation d'extrême pauvreté. Elle pointe du doigt la pandémie, puis la guerre en Ukraine et le renchérissement des prix de l'énergie et de l'alimentation.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous.
Le roi Pelé repose désormais dans sa dernière demeure.
Oui, l'éternel numéro 10 qui a marqué des générations d'amoureux du ballon rond a rejoint mardi sa dernière demeure, un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de 14 étages de la ville brésilienne de Santos où une foule immense de fans lui a rendu un vibrant hommage. Au premier étage, le mausolée où a été déposé le cercueil de Pelé rappelle un stade de football avec son gazon synthétique et des photos du roi. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au roi du foot, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres dirigeants du football, ainsi que des milliers de fans de Pelé.
Cela fait 2h30 que je suis ici, mais cela vaut la peine de rendre hommage à notre roi, car après lui, il n'y aura personne d'autre. C'est le meilleur, le plus grand du monde.
Je suis un fan de Palmeiras, mais je suis venu pour voir le roi. Edson est parti, mais Pelé vivra pour toujours dans le cœur de chacun, peu importe le club ou la passion. Pelé est éternel pour tous.
Éternel aussi pour le président brésilien Lula da Silva, pour qui le roi a toujours su être le meilleur et le plus humble.
C'est pourquoi je pense que le monde doit beaucoup à Pelé, en particulier la dignité d'un homme qui est né pauvre, noir, dans un pays où les préjugés sont très présents, et Pelé ne s'est jamais soucié de cela. Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble.
Le président brésilien Lula da Silva. Nous reviendrons sur l'héritage footballistique de Pelé dans la partie magazine de cette édition.
Dans le reste de l'actualité sportive, Cristiano Ronaldo a été présenté hier dans son nouveau club d'Al Nassr.
La superstar du football mondial a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marque pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse au record après avoir tout gagné en Europe. Cristiano Ronaldo.
Pour moi, ce n'est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie saoudite. Je voulais un changement et, pour être honnête, je ne me soucie pas de ce que disent les gens. J'ai pris ma décision et j'ai la responsabilité de changer cela Mais moi, je suis vraiment très heureux d'être ici.
Le quintuple Ballon d'Or qui a rompu avec Manchester United s'est engagé jusqu'en juin 2025 pour une somme estimée à 200 millions d'euros. Au sein du club jaune et bleu, Ronaldo sera dirigé par le Français Rudy Garcia et côtoiera l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar.
Page des sports VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes à Nouna, dans le nord-ouest, la veille du nouvel an. Le gouvernement affirme qu'une enquête est ouverte et appelle au calme. Pour sa part, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce des exactions commises par des volontaires pour la défense de la patrie contre la communauté Peul de Nouna. Yakuba Ouedraogo a joint à Ouagadougou le président du collectif, le docteur Daouda Diallo.
Le 30 décembre 2022, entre 9h et 11h, des civils armés, communément appelés volontaires pour la défense de la patrie, ont encerclé à Nouna deux grands secteurs, le secteur 4 et 6. Ils ont commencé à enlever uniquement les hommes qui appartiennent à la communauté Peul et à les exécuter froidement aussi et au vu de tous.
Qu'est-ce qu'on a recouché à ces personnes qui ont été tuées?
Dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre, vers 2h du matin, le quartier général des Dozo et VDP a subi une attaque terroriste. À la suite de cette attaque, il y a eu des échanges. Après, les terroristes ont replié. C'est en guise de représailles ou de vengeance que les VDP ont décidé de punir toute la communauté Peul, estimant que certains terroristes appartiendraient à cette communauté, qui est également une communauté victime.
Le gouvernement dit avoir ouvert une enquête. On a vu ce communiqué du procureur du Faso qui ne pointe pas du doigt les volontaires pour la défense de la patrie. Vous êtes sûr que c'est des VDP?
Oui, nous, on n'a pas de doute en ce sens que les victimes ont identifié clairement leurs bourreaux. Et deuxièmement, le chef d'Ozo, Karambiri, il a reconnu les faits, que ce sont ces éléments qui sont impliqués dans le massacre. Quand il a été approché par les leaders communautaires et également pour discuter des questions de l'enterrement et du sort des rescapés.
Le gouvernement a lancé ce vaste programme de recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative du gouvernement?
La volonté de bien faire en impliquant les populations à assurer leur propre sécurité au niveau local, dans le principe, ce n'est pas mauvais. Mais la mesure doit être bien encadré pour que certains bandits ou des gens de mauvaise foi ne profitent pas de cette opportunité qu'offre le gouvernement pour se régler les comptes ou pour s'adonner à du banditisme ou à du pillage. Le gouvernement burkinabé demande l'union, la cohésion pour faire face à l'ennemi qui endeuille toutes les populations sans discrimination ethnique, parce que la dernière attaque de Seitanga qui a fait plus de 100 morts a tué plus de 90% des Peuls qui étaient à Seitenga. Si on est d'accord que le terrorisme n'a pas d'ethnie, on peut réussir. Mais si on laisse les civils armés qui font ce qu'ils veulent, ils vont pervertir la mesure et détruire le tissu social.
Est-ce que vous avez foi que finalement, ces exactions, comme vous le dites, commises souvent à l'égard de la population Peul, vont s'arrêter?
Je suis beaucoup pessimiste, malgré l'espoir qu'on avait nourri avec l'arrivée du MPSR 2, mais les signaux actuellement qui sont enclenchés dans le Sahel, dans le nord, dans l'ouest du Burkina, où des civils armés se baladent publiquement aussi au vu de toutes les autorités au niveau local et qui font des enlèvements sur un fond de délit de faciès, c'est extrêmement grave. Et les personnes sont exécutées froidement en pleine ville, jetées à la merci des chiens et des charognards. Nous demandons à ce que cette logique soit recadrée très vite pour sauver notre patrie.
C'était Daouda Diallo, président du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les séparatistes des régions anglophones ont décrété un couvre-feu de 24 heures, empêchant les gens de circuler dans les rues et les entreprises de fonctionner. Ce couvre-feu est une réponse au discours du nouvel an du président Paul Biya, dans lequel il a déclaré que les rebelles ont été écrasés par les troupes gouvernementales. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
L'armée camerounaise dit avoir déployé lundi de nombreux soldats dans les arrondissements d'Oku, de Kumbo et de Kakiri dans la région anglophone du Nord-Ouest. Selon l'armée, les gangs armés ont au cours du week-end fermé les marchés, chassé les gens et les véhicules des rues et enlevé un grand nombre de civils qui ne se conformaient pas à leurs ordres. Lukong Genesis, chauffeur de taxi-moto de 54 ans, affirme que les hommes armés ont saisi sa moto. Il dit que les séparatistes qui se font appeler ambazoniens ou amba ont pointé leurs armes sur lui et lui ont demandé de rentrer chez lui.
La situation à Kumbo depuis deux jours est très très précaire. Il y a eu de sérieux échanges de tirs entre les séparatistes et les forces de l'ordre. Ce lundi, c'était comme une ville fantôme et les rues étaient désertes. Aucun mouvement de véhicules ou de personnes, tout le monde est resté chez soi.
Le Congo a ajouté que les combats entre troupes gouvernementales et les rebelles se sont intensifiés après le discours du président Paul Biya à l'occasion du Nouvel An. Le chef de l'État camerounais a déclaré que de nombreux groupes rebelles ont été tués et que la menace séparatiste a été considérablement réduite. Il a félicité l'armée camerounaise d'avoir protégé les civils et les biens pendant les 6 ans de conflit et a assuré que la paix ouvre la voie à la reconstruction de la région. Les séparatistes disent, pour leur part, lutter pour un État anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Capo Daniel, porte-parole des rebelles, a rejeté les allégations selon lesquelles leurs forces ont été considérablement réduites.
Que Paul Biya dise que la paix est revenue, c'est risible. Les zones que nous contrôlons ont largement augmenté. 19 militaires camerounais ont été pris pour cible à Bui et certains d'entre eux ont été transportés par avion pour être soignés. Il y a eu quelques incidents criminels par les militaires camerounais à Bui et à Oku. L'Ambazonie n'abandonnera pas son combat jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. L'indépendance.
L'armée camerounaise admet que ses troupes ont affronté les rebelles dans plusieurs villes et villages de l'Ouest, mais affirme que ses forces n'ont pas subi de pertes. Elle assure avoir tué au moins 11 séparatistes à Kumbo et Oku, une affirmation que la VOA n'a pas pu confirmer de manière indépendante. Bernard Okalia-Bilay est gouverneur de la région anglophone du Sud-Ouest.
Les agents perturbateurs viennent de la communauté. La communauté en elle-même, avec l'appui de l'État, doit combattre les fauteurs de troupes. Vous ne pouvez pas continuer à détruire, à tuer les membres de la communauté pour lesquels vous prétendez lutter.
Les séparatistes nient que leurs combattants ont enlevé et harcelé les civils. Dans les messages publiés sur les médias sociaux lundi, les rebelles ont fait savoir que leurs combattants font respecter leur couvre-feu pour contrer l'affirmation des Biya, selon laquelle les combattants sont vaincus. Selon l'ONU, le conflit dans les régions anglophones du Cameroun a fait plus de 3 500 morts et au moins 750 000 déplacés.
Selon un nouveau rapport du Centre africain d'études stratégiques, les inondations qui n'arrivent qu'une fois tous les 100 ans vont devenir plus fréquentes dans les régions côtières à cause de la montée du niveau de la mer. Alors qu'une partie de la côte ouest africaine est appelée à devenir la plus grande mégalopole du monde, les chercheurs s'inquiètent de la hausse du niveau des mers qui risque d'avoir un impact sur le continent et le monde entier. Le reportage d'Henry Wilkins depuis Ganvier au Bénin, le récit avec Abdourahmane Dia.
Selon le nouveau rapport du Centre africain d'études stratégiques, un groupe de réflexion financé par le Pentagone, les inondations catastrophiques qui se produisaient auparavant une fois par siècle risquent de se produire tous les 40 ans à cause de l'élévation du niveau des mers due au changement climatique. Selon les experts, les perturbations subies par les villes côtières et portuaires d'Afrique auront aussi un impact dévastateur sur la croissance économique. À la périphérie de Cotonou, la capitale économique du Bénin, les habitations de la ville de Ganvier sont construites sur des pilotis dans la lagune. On la surnomme parfois la Venise de l'Afrique. Agosou Zanmenou, un fonctionnaire de la commune de Soava, où se trouve Ganvier, affirme que les inondations ont empiré au cours des dernières décennies.
Dans la commune de Souaba ici, il y a deux activités principales. Il y a l'agriculture et la pêche. Donc quand l'eau monte, les cultures sont détruites. Quand l'eau monte, et les poissons d'espèces d'eau salée disparaissent.
L'effet sur la communauté a été dévastateur. Alexandre Bado, un autre résident de Ganvier, affirme que les inondations ont tué son bétail et que le niveau de l'eau a atteint environ 1,5 mètre, inondant sa maison, pourtant construite sur pilotis. Il dit connaître des parents dont les enfants sont morts noyés dans les inondations. Les communautés situées le long de la côte, autour des estuaires et des lagunes côtières comme Ganvier, seront les premières à subir les effets du changement climatique. Les inondations et l'érosion côtière vont affecter également les ports africains. Les mesures prises sont insuffisantes selon des économistes comme Astrid Rosemary Longano-Haas.
L'une des choses qui me choque, c'est le peu de financement pour soutenir ces villes, en général, en termes de construction d'infrastructures et de services. Mais surtout en matière de climat, il est extrêmement important non seulement de s'adapter, mais aussi de prendre en compte l'atténuation des effets de l'élévation du niveau de la mer.
Selon les experts, la portion du littoral ouest africain allant d'Abidjan à Lagos est en passe de devenir la plus grande mégalopole du monde et pourrait abriter un demi-milliard de personnes d'ici la fin du siècle. Daniel Hornweg est un spécialiste des villes durables à l'Université Ontario Tech au Canada.
Cela représente probablement 50% ou plus de 50% du PIB total de l'Afrique dans cette bande. Donc, si elle se développe bien, elle pourrait vraiment ancrer le continent. Si elle se développe bien, elle pourrait vraiment servir de point d'ancrage au continent, voire au monde entier, pour ce qui est du développement durable.
Outre Ganvier, Lagos au Nigeria et Accra, la capitale du Ghana, ont connu d'importantes inondations en 2022.
Dernier hommage mardi au roi du football, décédé le 29 décembre dernier au Brésil. Plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de Pelé en 24 heures à l'issue de la veillée funèbre dans le stade de 16 000 places du Santos FC, club dans lequel Pelé a joué pendant 18 ans. C'est ce qu'affirme le club de Santos où le footballeur a bâti sa légende. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres dirigeants du football, ainsi que des milliers de fans de Pelé. Que laisse Pelé comme héritage footballistique aux amoureux du ballon rond et à la société en général? Yacouba Ouedraogo a joint à Libreville au Gabon le consultant sportif Jules-Valentin Ngoué.
Il est normal que tout le gratin soit là, tellement le monde du football et même de la politique, la société en général doit au roi Pelé et des apports immenses qu'il a amenés dans le football, aussi bien sur le plan technique et tactique sur le terrain, et que pour l'évolution de ce sport et même l'impact social, le football après Pelé, avec Pelé, est devenu une véritable messe populaire où les plus puissants et les plus pauvres se retrouvaient pour ne former qu'un seul dans une frénésie incroyable et finalement oublier leurs soucis un moment et retrouver la réalité après. Donc son aura est impressionnante. C'est normal que ces grands hommes partent entourés.
Qu'est-ce que Pelé laisse comme héritage footballistique à tous ses amoureux du ballon rond?
Un héritage immense. C'est-à-dire qu'avant Pelé, le football se jouait et d'une certaine manière, mais avec lui, tout a changé. D'abord, il y a eu ces apports techniques d'utilisation et le maniement du ballon que vous retrouvez chez tous les grands attaquants modernes. Tout cela relève de la période et du jeu de Pelé. Il a traversé les époques, comme le disaient certaines personnalités qui lui rendaient hommage. Le président Macron en France, par exemple, a parlé d'éternité. C'est la réalité.
Au-delà du football, on a vu les hommages rendus par le monde entier. Qu'est-ce que Pelé laisse justement à toute la société en général?
La simplicité et la modestie de Pelé, qui, malgré tout le parcours qu'il a eu, a toujours été très proche du peuple. D'ailleurs, à titre presque posthume, il s'est exprimé sur son départ pratiquement en disant « Tous mes trophées et mes titres appartiennent au peuple et au monde. Et il a le plus souvent défendu de bonnes causes pour le football aussi. C'est lui qui a fait connaître le football aux États-Unis et faire de cette nation une nation de football qui compte sur la carte du monde à l'heure actuelle.
C'était Jules Valentin Ngoué, consultant sportif. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph, technique Elvin Fowler. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.